Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM sur internet www.rdwa.fr. Salut Amé.
Salut.
Alors Amé, tu vas jouer dans le cadre de la fête de RDWA le 30 novembre prochain au Théâtre de Die, ton spectacle #YouToo.
C'est ça.
Une occasion pour nous de t'inviter à cette antenne parce qu'on ne l'avait pas fait et il y avait un autre spectacle avant qui s'appelait On m'appelle Monsieur.
Tout à fait.
Si tu devais te présenter à quelqu'un, tu dirais quoi ?
Eh bien, je dirais bonjour, je m'appelle Amé, je suis humoriste. Enfin, en principe, je pense. Pas sûr, ça dépend.
Ça commence bien.
Ça dépend de quel humour on parle. Ouais, je dirais que je suis humoriste. Humoriste et militante. Pour moi, ça va de pair. Aussi.
Comment on devient humoriste ?
Bah, par hasard, hein, visiblement.
C'est quoi ton parcours ?
J'ai pas du tout fait d'études...
D'humoriste ?
D'humoriste. Il y a pas d'études d'humoriste. Enfin, en tout cas, je connais pas. J'ai pas fait ça. J'ai juste fait du théâtre, voilà, collège-lycée, et puis...
quand même.
Ouais. Et il y a eu une pièce qu'on a jouée, et moi, à un moment, dans cette pièce-là, en année-lycée, je devais faire semblant d'avoir envie de faire pipi. Et j'ai fait ça, et là, la salle s'est mise à rire. Et c'était la plus belle sensation que j'avais ressentie. Du coup, c'est vraiment là que je me suis dit, bah, si je peux, franchement...
J'aimerais bien faire rire.
Ah ouais, j'aimerais bien faire
Alors,
rire.
Alors, comment t'avais fait rire ? C'était par des mimiques ou
pas ? C'était par des mimiques, il n'y avait pas du tout de...
Il n'y avait pas de texte,
non, c'était juste une attitude. Et la réaction, elle a été là, à laquelle je ne m'attendais pas non plus. Et c'était trop bien. Moi, je me souviens encore de la sensation, je me souviens de la salle, je me souviens de tout. Et c'est là que... Ouais,
avec un public a priori pas conquis, parce que des fois dans les fêtes d'école, on va dire que bon, les parents sont bienveillants.
Oui, c'est ça.
Non,
c'était vraiment inattendu. On s'attendait pas à une réaction comme ça, quoi. On en avait reparlé après avec mon prof. On a trouvé ça super cool, quoi.
Comment t'étais venu au théâtre ?
Pourquoi j'avais fait une option, tu veux dire
Ah, en plus, c'était une option.
Ah, c'était une option, en plus. C'était pas compris. Non, c'était un truc que j'avais choisi de faire en plus, parce que j'adorais faire ça. Et j'étais arrivée un petit peu par hasard dans ce truc-là et j'ai fini par en faire pendant 7 ans, du coup, toutes les années collège et toutes les années lycée. Et je préférais faire ça que de faire du sport. Enfin, pour moi, c'était mon sport, quoi. C'était m'entraîner à... Et pas forcément qu'à faire rire, parce qu'il y avait des côtés dramatiques et tout aussi, auxquels moi, j'adhérais pas forcément.
T'as joué des rôles dramatiques ?
J'ai joué des passages dramatiques. Je suis pas sûre d'avoir été très crédible d'ailleurs dans ce truc, mais du coup j'ai su que je devais pas être dans le dramatique. C'était pas possible parce que je cherchais toujours à faire rire, quoi, à dédramatiser à chaque fois, chaque situation qu'on me donnait et tout. Non, mais faut quand même rigoler. J'ai pas envie de faire ce rôle là. Moi, je préfère être le clown derrière et que. Enfin voilà, quoi.
Du coup, c'était quoi comme théâtre ? Plutôt du théâtre classique, des pièces
Ça dépendait des années. Je sais que au collège, c'était plus des comédies musicales. Et j'ai compris aussi que le côté musical n'était pas mon truc. Parce que, quand tu chantes comme une merde en groupe, ça passe. Mais donc, quand tu chantes toute seule...
En humoriste, ça passe aussi.
En humoriste, ça passe, ouais. Mais c'était pas très second degré, là. C'était vraiment très... On était sérieux, quoi. On chantait Jean-Jacques Goldman et Céline Dion, quoi. C'était bien. C'était super.
Alors, si on reprend le fait que, ce jour-là, en mimant, tu fais rire, est-ce que c'est vraiment de là que vient, du coup, ce désir d'être humoriste ? Et comment tu le deviens ?
Eh bien, humoriste, je ne sais pas si j'avais déjà l'idée de faire ça, mais en tout cas, de faire rire, ouais.
Alors, comment tu le deviens ? Humoriste,
Moi, je suis devenue vraiment par hasard, parce que j'avais jamais prévu d'en faire mon métier. Alors, je voulais travailler dans le cinéma, tu vois, faire un métier même technique, tu vois, je voulais bosser là-dedans. Et j'avais commencé à écrire des petits trucs, mais c'était plus, j'amusais plus mes potes, j'amusais la galerie. Et voilà, et c'est en arrivant dans le Diwa, et c'est une pote à moi, Justine, qui m'a dit « Non mais il faut que tu l'écrives, il faut que tu ailles au bout de ce que tu as, puis tu verras bien en fait. »
Et parce que c'est quand même étonnant d'écrire les trucs même pour faire les potes, quoi.
Bah oui, c'est
d'habitude,
ça.
D'habitude, c'est une blague que tu gardes en tête, mais non, là, ça a commencé à être posé, quoi.
Bah, ça a commencé à être posé, et je l'ai testé, mine de rien, tu vois, histoire de voir un peu la réaction. Je voyais que ça arrivait, je me dis « Oh tiens, bon, bah c'est cool. » Mais j'avais pas le projet d'écrire un spectacle, enfin de le jouer et d'essayer d'en faire mon métier, pas du tout.
Alors pour comprendre le déclencheur, c'est plutôt du côté militant en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Alors quel est-il ? Comme ça les auditrices et les auditeurs le découvrent.
Mon côté militant, alors je vais militer de ce qui me touche, hein, ça va être l'homophobie et les stéréotypes de genre, en tout cas, et le féminisme aussi. Mais là, le féminisme, il vient plus tard. Moi, quand j'ai écrit ce spectacle, c'était pas du tout centré sur ça.
Donc on m'appelle monsieur.
Là, on m'appelle monsieur, ouais, où je l'ai écrit à la base parce que on m'appelle monsieur dans la rue, quoi. À cause de ma coupe de cheveux, en vrai. On m'appelle encore monsieur aujourd'hui, ça arrive encore. T'as plein de gens qui me disent non, mais c'est pas possible, enfin, t'as des traits féminins. Bah oui, mais bon, je n'invente pas, en fait, tous les trucs. Il y a des potes qui en ont été témoins aussi. Fin... Et du coup, voilà, j'avais décidé de parler de ça. Et parce que pour moi, ça a été le déclencheur aussi. À partir du moment où on m'a appelé monsieur et que au début, ça ne me faisait pas rire. Après, j'ai décidé d'en rire. Hein. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Et après, voilà, y a eu tout ce truc de la manif pour tous qui est arrivé et qui m'a donné envie aussi de militer contre ça et d'essayer de décrédibiliser ce mouvement qui, pour moi, est complètement absurde et qui est dirigé par des gens qui ne sont même pas homosexuels. Et qui sont complètement ignorants du reste, quoi, en fait. Pour moi, la meilleure arme contre ces gens-là, c'est le rire. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'arme que j'ai choisie. C'est... voilà.
Comment on écrit pour faire rire ?
Eh ben, il y a des trucs qui me viennent tout seul. Je fais beaucoup de recherches, quand même. J'essaie toujours de vérifier mes infos. Quand je me moque de quelqu'un, il faut que ce soit quand même... Enfin, quand je me moque. Se moquer ou en rire, y a une différence quand même. C'est, quand tu te moques, il y a de la méchanceté derrière. Quand tu ris de quelque chose, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément critique, c'est pas forcément... Et ouais, c'est par le biais de recherche et du coup, je parle un peu toute seule aussi pour trouver les vannes. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai écrit. Le premier.
Donc c'est quoi une bonne vanne ? C'est elle te fait rire aussi ou...
Ah bah ouais. Ah bah ouais, si elle me fait pas rire, c'est que c'est pas une bonne vanne. Enfin, une bonne vanne pour moi, en tout cas. Et puis, je ne saurais pas, du coup, faire rire de quelque chose qui ne me fait pas rire moi-même. Enfin, c'est pas possible.
Donc, tu prends, par exemple, là, si on prend le thème du premier spectacle, comme ça, on termine, puis on va glisser tranquillement sur le deuxième.
Ouais.
Sans trop en dévoiler.
Bien sûr.
Ah oui.
Je vais faire beaucoup de recherches. Il y a une phase, je pense, il y a un an de recherche. Vraiment, sur tous les trucs, je cherche les sujets. Et après, je vais les répéter. Et je vais trouver, pour moi, l'absurdité dans le truc. Et une fois que je l'ai trouvé, c'est comme ça que je l'utilise. Et c'est comme ça que j'écris. Puis c'est découpé, mes spectacles sont découpés en plusieurs parties. Et du coup, après, il faut juste les lier les unes aux autres. Et puis, ça fait un spectacle. Voilà.
Il y a des inspirations, je veux dire, d'autres humoristes qui, par exemple, ont guidé une partie de ton travail
Ouais. Pour le premier, enfin, moi, je sais que l'idole que j'ai eue et que j'ai encore maintenant, même s'il y en a d'autres, c'était Florence Foresti. Moi, je me suis beaucoup inspirée de Florence Foresti, pas forcément au niveau de l'énergie, mais juste au niveau du texte et de ce qu'elle arrive à passer dans des spectacles. Et puis après, plus récemment, il y a Blanche Gardin et aussi, qu'on connaît peut-être peu en France, les humoristes américaines. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, qui sont super, quoi. Je pense à Sarah Silverman, je pense à Tig Notaro, qui, moi, me font beaucoup rire, même sur des sujets très, très trash, des fois.
Avec ce côté plutôt stand-up, parce qu'on dit souvent que c'est ça, les États-Unis, c'est pas tout à fait le même type d'humour qu'en France.
Mais t'as du stand-up aussi. Moi, je fais pas de stand-up, par exemple. Moi, c'est un spectacle d'une heure, du coup, on peut pas considérer ça comme du stand-up, parce que stand-up, c'est plus considéré comme... Voilà, des petits 8 à 10 minutes où tu vas écrire des histoires. Et là, je l'ai testé d'ailleurs il y a 2 semaines, là, ce côté stand-up. Et c'est vrai que c'est cool aussi de découper les histoires que je raconte. Après, moi, je préfère... Quand j'écris mes spectacles, je les écris de bout en bout. Et du coup, il y a un lien, enfin, il y a un fil rouge tout au long du spectacle. Et du coup, c'est plus compliqué pour moi de le découper et de faire du vrai stand-up que de faire un spectacle. Parce qu'il y a un message aussi dans chaque spectacle. Et du coup, qui passe peut-être pas en stand-up parce que t'as pas la globalité du spectacle, quoi.
Une fois que ce spectacle est écrit, tu passes à la phase de mise en scène. Comment elle se passe pour lier toutes ces parties, comme tu disais tout à l'heure?
Je pense que la mise en scène, elle se fait en même temps que l'écriture. Au moins sur le ton, l'accent que je vais prendre et tout ça. Et la mise en scène finale, où par exemple, je mets en scène des personnages fictifs ou existants, hein, parce que quand je mime la manif pour tous, c'est des vraies personnes hein, qui parlent. Et là, ça vient après. Là, ça vient après. Moi, une fois que j'ai le texte en main et que j'arrive à l'exprimer comme je le veux, là, après, il y a la mise en scène derrière qui arrive.
Oui, il y a toute cette partie mime, justement, où nouveaux accents, alors tout ça...
C'est avec Justine qui m'aide beaucoup pour la mise en scène du premier. En tout cas, on n'a pas encore bossé sur le deuxième, là, mais... quand je vais mimer un personnage, qu'il soit fictif ou pas, comment il va s'appeler, comment il se tient, c'est quoi sa position, comment il parle, est-ce qu'il parle lentement, est-ce qu'il parle fort, est-ce qu'il parle doucement. Et du coup, on met tout ça en place selon ce qu'on veut faire passer. Et du coup, on manipule un peu les personnages et on leur donne vie, finalement, sur scène, après.
Donc, tu vas encore bosser avec Justine pour ce nouveau ?
J'espère. Je ne sais pas du tout si elle sera dispo, mais j'espère, ouais. Parce qu'elle amène quand même un regard extérieur qui est vraiment chouette. Ouais. Ouais. Qui me plaît en tout cas beaucoup.
Et ce spectacle, du coup, #YouToo, va être joué sans avoir eu cette mise en scène-là.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Après, moi, je l'ai bossé aussi toute seule. Je n'ai pas fait de résidence dessus. C'est plus ça, dire je ne l'ai pas bossé entièrement, c'est que je n'ai pas fait de résidence où j'ai répété chaque phrase 50 fois pour être sûr d'avoir le bon ton, parce que là, je suis encore en train de le tester, en fait. J'ajuste selon le public aussi, selon l'endroit où je joue, selon l'actualité aussi. Des fois, je modifie des trucs parce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent et tout ça. Donc, je le teste, mais il est fait, il est bien, il y a juste...
Tu te rends compte encore qu'il y a des vannes qui ne marchent pas, par exemple, ou...
Il y en a qui marchent pas avec tout le monde. Après, ça, c'est le jeu.
Donc, il faut les garder, quand même.
Il faut quand même les garder parce qu'elles fonctionnent et parce que, pour moi, elles sont importantes aussi. Même si ça fait pas rire, parce que là, dans le deuxième, il est quand même beaucoup plus engagé et peut-être un petit peu plus trash que le premier, qui était un peu plus, pas simplé, mais qui était un peu plus fun, tu vois, un peu plus léger, en tout cas. Et là, je parle quand même de sujets qui me touchent et qui me font pas encore forcément rire totalement. Du coup, des fois, ça ne me dérange pas de dire quelque chose. Il ne va pas forcément y avoir de rire. Ça va peut-être même plus choquer, mais ça ne me dérange pas. Parce que c'est le but aussi de passer ce message-là.
Bon, on met les pieds dans le plat, alors.
Ouais.
Ouais.
Vas-y.
Donc, ce premier spectacle, tu parlais, il y avait cette question de l'homophobie, du genre. Mais là, tu as carrément glissé sur la question féministe.
Ouais.
Qui pour autant n'était pas absente de ce premier spectacle.
Non, non, non,
ça faisait rire. Mais là, c'est le problème, c'est de ce truc de Me Too, en fait.
Ouais, c'est né de... Enfin, le sujet, je l'ai choisi avec ce mouvement-là qui a été créé. J'avais déjà commencé à écrire quelques trucs, mais plus sur les questions de genre, les questions de stéréotypes, le conditionnement sociétal par rapport au genre, et le Me Too, il arrivait après. Et du coup, moi, j'ai assisté à tout ce mouvement et aussi, du coup, aux mouvements opposés qui sont apparus à ce moment-là aussi. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'écrire sur ça. Et c'est marrant parce qu'il y a une pote qui m'a dit que par rapport au premier, on sentait que on voyait que ça me faisait moins rire. Parce que apparemment, je suis plus tranchante dans mes propos. Je suis plus... c'est plus cynique, c'est plus... Et parce que, ouais, il y a des trucs que je dis dans ce spectacle, en tout cas pour moi, qui sont importantes à dénoncer. Et que oui, des fois, c'est pas drôle, mais c'est comme ça.
Donc, tu dénonces en partie ce que vivent un certain nombre de femmes face à l'homme.
Ouais, mais aussi, Et ça, c'était vraiment une volonté de ma part. C'était pas de parler que des femmes. C'était de parler des hommes aussi. Et des conditionnements qui...
Qui amènent à ça ?
Qui subissent, ouais. Parce que... je vais dire une phrase que je dis dans mon spectacle. Les hommes ne naissent pas cons, ils le deviennent. Certains le deviennent. Et c'est pas forcément de leur faute. Tout comme t'as des femmes qui sont pas féministes. Ça existe. Et qui, pareil, parce qu'elles ont été... conditionnées ou élevées dans des milieux qui ne l'étaient pas non plus. Et du coup, elles diffusent ça. Enfin, en tout cas, pour revenir aux hommes, pour moi, c'était important aussi de ne pas faire un spectacle...
À charge.
À charge, où je les trage pendant une heure. C'est pas le but. Pour moi, c'est pas ça, être féministe. Et ouais, pour moi, c'était vraiment une volonté de aussi parler de la condition de l'homme dans leur éducation, dans leur enfance... Du coup, je retrace un petit peu tous ces trucs, en passant des jouets pour enfants au sport. Enfin, montrer aussi qu'on est... Les hommes comme les femmes, on est conditionnés aussi à se sentir différents l'un de l'autre.
Et alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui ne te fait pas rire dans cette histoire ?
Je parle aussi des camps de virilité. Parce qu'il y a des camps qui existent où on envoie certains hommes... ou des hommes, ils vont de leur plein gré hein, pour... retrouver leur virilité perdue. Et du coup, je parle de cette virilité qui, pour moi, est complètement... Enfin, c'est un concept qui, je pense, a perdu l'humanité. Enfin, vraiment, ce concept de virilité, c'est...
Je veux dire, moi, déjà, juste le concept me fait un peu rire, mais du coup, ça...
mais et pour te dire qu'on va faire des stages, enfin, c'est quand même dingue, quoi. Et parce que ça vient aussi...
Par exemple, un stage, pourquoi ? Pour être... Pour rouler des mécaniques, pour avoir une bonne barbe.
Essayer de comprendre ce concept de virilité. Allez. Non, être un homme, un vrai, ce qu'on dit qu'un homme doit être. Et en gros, c'est triste à dire, mais un homme, ça ne montre pas ses émotions, ça ne doit pas pleurer, ça ne doit pas... Tu vois ? Et c'est un truc, ça doit être la tête de la maison, ça doit être la force, le protecteur. C'est un concept qui me dépasse complètement, comme si la femme n'était pas capable d'avoir toutes ces qualités-là et de pouvoir protéger aussi son copain ou son mari.
Là, il n'y a pas de vanne là-dessus, quoi.
Il y a des vannes, si, je me fous de leur gueule, hein, complètement. Non, mais bien sûr que si. Si. On rigole quand même pendant le spectacle, c'est pas, c'est pas un drame. Je le vends comme s'il n'était pas drôle, mais j'espère qu'il est drôle quand même. Enfin, les dernières dates que j'ai faites, en tout cas, m'ont prouvé qu'il était drôle quand même. Donc si, on rigole, mais ça dit
alors
des
qu'est-ce
choses.
Qui est trash ? Qu'est-ce qui est que tu penses qui vient gratter, déranger Nous, on a noté qu'il allait piquer un peu ton spectacle.
Mais il pique, ouais, il pique. C'est peut-être mieux piquer que trash, en fait. Parce que, en fait, c'est juste trash, moi, c'est dans le sens où, par exemple, dans On m'appelle monsieur, je vais pas. Je faisais attention à ce que je disais, comment je le disais, pas dire trop de gros mots non plus, pas être vulgaire. En fait, pas rentrer dans la vulgarité. Parce que pour moi, c'est pas ça l'humour. Un humour vulgaire, c'est pas beau.
Il y en a pour qui ça marche.
Il y en a pour qui ça marche, malheureusement. J'en connais un. Bon, voilà. Mais pour qui ça marche, mais pas auprès de tout le monde, pas auprès de nous, en tout cas. Et moi, je sais que j'ai envie de toucher un public un peu plus large. Et du coup, je voulais pas rentrer dans cette vulgarité. Et puis pour le deuxième, je me suis dit, En fait, il faut dire les choses. Tu vois, quand je vais dire des gros mots, quand je vais sortir des insultes, c'est parce que...
À ce moment-là, t'as pas trouvé mieux, quoi.
Ben non, et puis parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, quand je vais parler du harcèlement de rue, etc., je vais pas sortir des mots qui sont pas la réalité. Si je veux dénoncer ce qui se passe, ce que les femmes subissent dans la rue quand elles vont faire leurs courses, tu vois, ou quand elles rentrent à 4h du matin... Et c'est salope, pute, va te faire foutre.
Oui, ça c'est les mots qui sont reçus, donc du coup ils ont une légitimité, effectivement.
C'est ça. Et moi du coup je me disais, bon en fait tu peux pas essayer d'en employer d'autres ou d'essayer de... Puis je voulais pas amoindrir le truc, en fait. Je pense qu'il y en a qui sont pas conscients de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut entendre et qui disent non c'est pas possible, t'as pas dit ça. Si, en fait. Et du coup, moi, c'est ce que je voulais dire dans le spectacle. J'ai beaucoup hésité pendant des mois. Je me suis dit, mais est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Puis en fait, je le fais. Je le fais parce que je trouve ça important que ce soit diffusé et que ce soit dit.
Voilà, donc tu fais partie de ceux qui dénoncent. Et ça, on peut dire qu'il y a déjà des décennies de personnalités qui ont dénoncé. Comment est-ce que le public le perçoit? Est-ce que, par exemple, sur les quelques fois où tu as pu déjà le tester, tu vas avoir des femmes qui vont dire ah, « merci parce que là, enfin ouais, moi aussi, ça n'arrête pas, je ne sais pas qui en parler » ou « est-ce que ça libère quelque chose? Est-ce que des gars se sentent un peu cons ?» ou se rendre compte eux-mêmes qu'ils ont déjà des attitudes qui sont parfois limites. Tu vois, quel est le niveau de conscientisation que tu peux mesurer après le spectacle?
J'ai pas trop... Enfin, même s'il y a des hommes qui réagissent à ce que je vais dire, ils vont pas forcément venir m'en parler. En fait, ça dépend de la personne aussi que j'ai en face de moi. Il y en a, ils vont se sentir visés, ça c'est sûr.
Ça, par exemple, dans le public, tu vois qui est-ce qui oh, il a
sur
été touché.
Sur le deuxième, j'ai pas encore eu l'occasion.
Mais sur le premier,
ouais.
Ah ouais.
Sur le premier, ouais. Il y avait même un mec qui était venu me voir quand je parlais du harcèlement de rue sur les lesbiennes, qu'on venait nous demander comment on couchait, qu'on pouvait pas parce qu'on avait pas de pénis, ouais. Des trucs comme ça. Et il y avait un gars à une date à Marseille qui était venu me voir et qui m'a dit putain, je suis désolé parce que des fois c'est moi le connard. Là, tu vois, et je trouvais ça trop bien qu'il vienne me voir. Et je me suis dit en fait, voilà, en fait lui il le fera plus. Et c'est déjà ça en fait. Si au moins j'ai pu toucher quelqu'un, même le faire se rendre compte, parce que je pense qu'il avait aucune idée que son comportement était complètement homophobe. Je pense que pour lui, c'était des questions...
En plus d'être niais,
ouais, tu vois, ouais. Pour lui, c'était complètement normal de venir poser cette question-là à quelqu'un dans la rue. Mais sur le deuxième, j'ai plus eu de retours de femmes, souvent des femmes hétéros, qui venaient me voir et qui me disaient « Ah bah ça fait du bien de ne pas avoir un spectacle où les hommes se font tracher tout le long du spectacle, en fait. » Et qu'il y en avait qui étaient quand même surprises, agréablement surprises, que je défende un peu les hommes. Voilà.
Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avant, je ne sais pas si c'est bien de la placer maintenant, mais sur ce spectacle qui s'appelait « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », qui t'avait scandalisé. Mmh. Et on dirait que tu redis un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pointer l'un et l'autre sans... les mettre ensemble quand même à un moment,
ouais.
Et donc les revaloriser les deux dans ce qu'ils ont à progresser, quoi.
Bah ouais, pour moi, on est, alors physiquement on est différents, oui c'est vrai, même au niveau des gènes et tout ça, oui on est différents, il y a des différences entre hommes et femmes, mais par contre notre position dans la société, pour moi, le truc il n'est pas naturel, il est sociétal, on nous a séparés tout de suite. Et on nous dit que voilà, on doit pas avoir accès aux mêmes choses, on sert pas à la même chose dans la société. Et pour moi, ça, c'était important de... Et oui, ce spectacle-là, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est complètement scandaleux. Enfin, moi, je le regarde, ça me fait pas rire. À aucun moment, je rigole, quoi. C'est... Ce gars-là, dont je me rappelle même plus le nom, d'ailleurs, pour moi, il...
Tout est donc sur le stéréotype de genre, hein, pour...
Ah ben oui. Pour lui, il nous dit qu'on est complètement différents. Qu'une femme ne peut pas comprendre la même chose qu'un homme, qu'elle ne ressentira pas la même chose qu'un homme, et vice-versa. Et il les ancre. Voilà. Il vient appuyer, il prend en fait des généralités qui ne sont pas en fait... qui ne sont même pas des généralités, en fait. C'est juste ce que la société montre des hommes et femmes. Il les reprend et il essaye d'ancrer ça. Pour moi, c'est ça. Et du coup, il a pas du tout une approche intelligente, je trouve, de la chose. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des millions de personnes qui vont voir ce spectacle et ils disent « Ah, il est trop bien, c'est vrai !» Ouais, mais pourquoi c'est vrai ?
C'est très juste, quoi.
Ouais,
c'est ça,
voilà, ouais. En mode « Ouais, ouais, c'est vrai ce qu'il dit. » Bah, malheureusement. Malheureusement, en fait, c'est vrai, mais c'est parce que les personnes qui vont voir ces spectacles, enfin, son spectacle, ils ont pas du tout le recul... C'est pas un spectacle qui te fait réfléchir, en fait. C'est un spectacle qui vient te réconforter dans ce que tu vis, en fait, au quotidien. Pour moi, c'est vraiment ça.
Mmh. Et probablement dans une connerie.
Et dans une connerie. Pour moi, c'est une connerie. Après, ce n'est que mon avis personnel, mais pour moi, c'est une grosse connerie, ouais.
Et pour autant, on va pas pouvoir faire l'impasse de parler des questions de genre avec toi. T'as parlé aussi du fait que certaines femmes hétérosexuelles te rendaient tel type de retour. Bon, t'as fait ton coming out avec le premier spectacle, ouais. On t'appelle monsieur. Est-ce qu'effectivement, le fait d'être lesbienne ou d'avoir passé un stéréotype de genre permet de se rendre compte plus facilement, selon toi, de cette chose-là, que vous êtes dans un combat qui déjà vient mettre à mal, j'allais dire, justement, le genre masculin imposé par la société. Et tout ça pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, finalement, les femmes hétérosexuelles, parfois sont tellement moulées qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles pourraient être féministes. Ou,
Ouais. Après, je pense que le fait que... Enfin, ton orientation sexuelle, ça va pas...
Non, c'est pas l'orientation, c'est plutôt le genre, justement, qui a été re-questionné derrière.
Bah, en plus... En fait, je pense qu'il faut que tout le monde se pose les questions, en fait. Sauf qu'on ne nous donne pas forcément l'opportunité de le faire. Moi, je l'ai fait parce que... déjà parce que je suis lesbienne. Et que du coup, j'ai déjà, moi, je subis déjà une oppression. C'est-à-dire, par mon orientation sexuelle,
je suis déjà
discriminée. Du coup, j'ai déjà un recul et je me pose des questions par rapport à ça. Et le féminisme, il est venu presque en même temps parce que je suis une femme aussi. Donc, c'est plus... Et je suis au contact de femmes beaucoup plus qu'au contact d'hommes. Pourtant, j'ai des potes mecs, c'est pas le problème. Mais je sors déjà du cadre. Par exemple, une femme hétérosexuelle, elle est déjà dans un cadre, tu vois, avec l'homme. Et du coup, elle est... je dis peut-être une connerie, là, hein, mais pour moi, si elle se pose pas les questions, elle va rester dans ce truc hétéronormé et sexiste, en fait.
En n'en étant pas forcément malheureuse, en plus. Enfin,
non, mais pas du tout, pas du tout. Je dis pas que l'hétéronormalité rend malheureux, pas du tout. Pas du tout. C'est juste que des fois, ça peut...
Est-ce que l'homosexualité rend malheureux, du coup? Le fait d'être discriminé et t'en rendre compte.
Plus, c'est pareil, parce que pour moi, en fait, ça reste de l'amour, tu vois, hétéro ou homo.
Non, mais je veux dire, le fait, du coup, de te retrouver dans une position discriminée.
Ben, c'est ça.
Je vais sortir un truc gros comme les yeux de la tête, mais les noirs sont discriminés parce qu'ils sont noirs et ça se voit sur leur tête, et des gens un peu bas de plafond en font un phénomène de discrimination.
Ouais.
L'homosexualité,
ça se voit pas forcément.
Ça se voit pas, voilà. En fait. Je veux dire,
après, y a quand
le choix
même
sexuel n'est pas...
Moi, je pense que ça se voit quand même un peu parce que j'ai des codes aussi et que j'aime bien mettre ces codes en avant aussi parce que c'est une revendication aussi pour moi.
Il faudrait les connaître, les codes.
Bah, il faut les connaître, les codes, mais en fait, tu peux les connaître si tu t'y intéresses, tout simplement, aussi. Je trouve qu'il y a, de la peur et... Enfin, j'ai jamais compris l'homophobie, moi. C'est vraiment le truc qui me dépasse complet. C'est comme le racisme, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas le principe, en fait, de discriminer quelqu'un parce qu'il est différent de toi. Moi, comme je sors de la norme, entre guillemets, moi, j'ai déjà un recul par rapport à tout ça, et quelqu'un qui va être tu vois, un homme blanc hétéro, je veux dire, des discriminations, il va pas en subir des masses dans sa vie, en fait.
Aucune,
il est quand même,
je pense.
Il est quand même vachement privilégié, plutôt qu'un homme noir ou qu'un homme gay, ou tu vois, ou qu'une femme, en fait, tout simplement. Et du coup, je pense que c'est difficile des fois, même pour une femme par exemple qui est une femme blanche, hétéro, ça va être beaucoup plus difficile aussi pour elle de, si elle s'y intéresse pas et qu'elle côtoie pas en fait d'autres choses que son cercle privilégié entre guillemets, elle va pas se poser toutes ces questions, je pense.
Parce que ça, elle a pas besoin.
Elle a pas besoin, ouais. Et puis ça dépend où elle va chercher les infos, hein, si elle va regarder la télé ou si elle lit. Forcément, en fait, elle va pas pouvoir se faire une véritable idée de ce qui l'entoure, en fait, je pense.
Des magazines comme Cosette, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment féministes, selon ton point de vue?
Je pense qu'il y a plusieurs stades de féminisme. Cosette, pour moi, est féministe, mais pas pour tout. Pas pour tout.
Est-ce qu'ils sont à l'abri, j'allais dire, plutôt de la norme hétérosexuelle, pour être plus précis, et blanche, masculine?
Je pense qu'elles sont féministes, c'est clair, parce qu'elles défendent plein d'idées, elles parlent de plein de sujets qui sont hyper actuels, elles vont mettre en avant des artistes féminines, mais aussi des artistes masculins. Et pour moi, elles sont féministes dans le sens où l'homme et la femme ont autant leur place dans leur magazine. Après, ça va être, sur leur couverture de magazine, sur leur couverture, en général, c'est des femmes. toujours. Mais c'est des femmes qui sont belles. C'est des femmes qui vont être maquillées, qui vont être... qui vont pas, en fait, forcément représenter la femme dans ce qu'elle est vraiment, ou de montrer des femmes qui sont différentes. Après, elle parle de sujets hyper engagés qui, moi, me plaisent beaucoup. Mais après, est-ce qu'on peut être... après, c'est un peu chercher la petite bête aussi,
oui,
je pense.
C'est surtout pas pour faire une fixette sur Cosette, mais c'est, voilà, c'est un des magazines grand tirage qui est côté féministe, et donc c'était...
Ouais.
Voilà, là, un peu...
Alors, je pense qu'on peut... C'est pour ça qu'il y a plein de mouvements féministes différents. Il y en a qui sont beaucoup plus extrêmes. Il y a des nanas qui se disent féministes, d'ailleurs, qui ne sont pas féministes, vu qu'elles sont anti-mecs. Et pour moi, ça, ce n'est pas le féminisme, en fait. Ça, c'est juste une partie extrémiste du mouvement féministe. Et je pense qu'on peut... ouais, on pourrait essayer de trouver la petite bête un peu partout, mais c'est quand même génial qu'il y ait un magazine comme ça qui publie tous les mois et qui... Moi, je trouve ça génial. Et tu vois, cette histoire de couverture, c'est même pas pour... c'était vraiment histoire de trouver un truc, mais sinon... j'adore ce magazine. Ouais, voilà, moi, je l'adore. Je l'achète tous les mois. Je le lis avec plaisir. Après, des fois,
je crois
oui,
que c'est chez toi que je l'ai vu, c'est pour ça.
Ouais, mon armoire commence un peu à crouler, d'ailleurs, sous les Cosette. Faudrait peut-être que j'en jette ou que j'en file, j'en sais rien. Mais ouais, moi, c'est un magazine que j'aime bien. Et oui, je peux être tatillonne sur des trucs féministes, je peux... Mais je pense qu'on peut tous l'être, mais c'est... Je pense qu'il faut se concentrer sur la base, et c'est l'égalité homme-femme, d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes libertés.
Et peu importe. Parlons-en de ça. Est-ce que les mêmes droits, les mêmes devoirs et l'égalité, c'est donc de faire la même chose, et donc les mêmes conneries que nous ?
C'est pas de faire la même chose. Je pense que c'est plus une histoire de choix.
Par exemple, que les femmes aient le droit de chasser, enfin, puissent chasser maintenant, ou soit dans des groupes de chasse.
Ah non, mais la connerie est universelle. Hein. Je veux dire, la connerie n'a pas de genre. Hein. Bah, tu vois,
tout de suite, je ne vais pas dire que les chasseurs sont des cons.
Non,
mais
non, pas du tout, tu vois. Mais,
non, moi, ou de faire cas, du tuning, par exemple. Ou, tu vois, on voit ce genre de délire.
Ouais, voilà, après,
ou d'être Margaret Thatcher, par exemple.
Enfin, oui. Ouais. Super. Eh bien, oui, c'est... pour moi, une... En fait, ce qui prouve... que l'homme et la femme ne sont pas si différents que ça, à part physiquement et biologiquement parlant, c'est que on voit qu'il y a de la connerie dans les deux côtés. Et mais vraiment, hein, enfin, je veux dire, ça n'a pas de genre, ça n'a pas de sexe. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui est con, il est con. C'est pas parce que c'est un homme ou que c'est une femme, ce sera pareil, en fait. Donc non, il faut juste qu'en fait le sexe ou le genre ne soit pas pour moi, en tout cas, quelque chose qui te définit en tant que personne. C'est moi, par exemple, je suis une femme, ok, mais je ne suis pas qu'une femme. Je suis d'autres choses.
Tu es aussi un monsieur.
Je suis aussi un monsieur, des fois, aux yeux de la société. Je suis lesbienne, mais je ne suis pas que lesbienne, en fait. J'ai d'autres... c'est pas ce qui définit ma personnalité. Je ne suis pas ce que je suis aujourd'hui parce que je suis une femme et que je suis lesbienne. Alors oui, ça a modelé sûrement, mais ce n'est pas l'essentiel. Moi, je suis âmée à la base. Que je sois une femme ou un homme, que j'ai envie d'être considérée comme un homme ou comme une femme, ça n'a pas d'impact sur la connerie que je peux avoir aussi, d'ailleurs.
Et t'es avant tout humoriste, c'est comme ça qu'on t'a présenté. Hein.
C'est ça.
Voilà. Donc, on va se marrer avec quand même ce spectacle, hashtag YouTube. Il dure combien de temps ?
Alors, il dure, allez, 50-55 minutes. J'ai encore une partie à écrire sur les règles. Parce que c'est un peu ce qui fait l'actualité aussi aujourd'hui et que c'est très important pour moi d'en parler. Donc il fera, on va dire 1h10.
C'est peut-être la seule vraie différence qu'il y a entre nous.
Ben c'est ça. Et puis apparemment aussi, vous avez des phases qui pourraient être des phases hormonales qui... Mais vous, c'est plus long, ça dure 6 mois en général. Enfin,
ouais.
Mais bon, vous pissez pas le sang, quoi. Donc comme ça se voit pas, on n'en parle pas, hein, évidemment. Mais nous, ça se voit. Nous, ça se voit, ouais. C'est ça le problème. Je pense.
Donc, avec cette partie-là, il sera un petit peu augmenté, ce spectacle.
Ouais.
Mais on ne l'aura pas le 30 novembre.
Bah non, je pense pas, non.
Bon.
Parce que je ne l'ai pas testé encore. Peut-être, on ne sait pas.
Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté par rapport à l'autre spectacle,
ça reste dans le même esprit. Je n'interagis pas plus que ça avec le public. Après, ça reste... je suis là pour les faire rire, donc forcément, je les regarde, forcément, je cherche un peu à voir les réactions, surtout comme je le teste là, j'ai vraiment... En général, je regarde les mecs, surtout là, pour ce spectacle. Ouais. Je regarde un peu comment ils réagissent et en général, bah, ils se marrent, quoi. Et c'est ça qui... Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils marchent, c'est parce que même les mecs, ils rigolent, alors que pourtant... ok, je les défends, mais je les trash aussi. Hein. Enfin, je veux dire, je trash pas les mecs en général, je trash ceux que j'aime pas, ceux qui sont cons, ceux qui se comportent comme des cons. Et je sais pas si j'en ai déjà eu un dans une salle, mais on verra bien. Je pense qu'il aimera pas mon spectacle, du coup. Mais...
Ou peut-être qu'il va rire.
Ou peut-être qu'il va rire, ouais. Peut-être qu'il va rire.
Et alors, il sera soigné.
Je sais pas si c'est vraiment une maladie. Hein. Je sais pas s'il sera soigné, non. Après, si ça peut l'amener à se poser des questions et peut-être à changer d'avis, c'est déjà pas mal et j'aurais tout gagné, je pense. Ouais.
Comment on te programme? Où est-ce qu'on te trouve?
Alors, on peut me trouver sur Facebook, sur Amé One Woman Show, avec le woman qui est écrit W-O-M-A-N. Voilà, parce que je voulais aussi distinguer ce truc de genre. Donc on me trouve sur Facebook, j'ai une chaîne YouTube aussi où on peut aller voir des extraits du spectacle. Il y a tous les contacts du spectacle et les dates aussi que je vais faire, il y a tout le programme. Et bah voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour.
Et tu tournes pas mal, hein?
Bah là ça commence, ouais. Là ça commence, on est en train
tu
de préparer.
Tu vas bientôt en vivre de ça?
Ouais, ouais, bah ça serait bien, putain, ça serait bien.
Non, parce que sinon, on peut trouver Amé dans la vigne, Amé dans le...
Ah oui, Amé en séjour chiant. Avec des enfants, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi.
En animatrice,
ouais, oui, horrible. Voilà. Horrible, horrible, en coordinatrice.
Directrice, un peu.
Directrice, ouais.
Infernale.
Enfin, j'aime pas le mot directrice, je préfère coordinatrice.
Ouais, ouais, ça fait moins...
Parce que directrice, ça fait vraiment chef-ten, j'ai pas du tout envie d'avoir cette image-là.
T'assumes pas?
Non, non, et puis j'y arrive pas de toute façon, donc c'est pas possible. Et ouais, ouais, ça serait génial d'arriver à en vivre. Et là, on est en train de prévoir avec une pote une saison, une tournée 2019-2020. Enfin, 2019, c'est bientôt fini, mais il y a quelques dates, là, jusqu'à la fin de l'année. Dont là, le 23 novembre à Bruxelles, pour le L Festival, qui est un gros festival LGBT à Bruxelles. Et ils organisent deux soirées consacrées au stand-up, avec des humoristes de Paris aussi, que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ça me fait un peu flipper parce que c'est la première fois en fait que je vais faire une scène comme ça, quoi. Mais j'ai hâte de faire. Je trouve ça génial de consacrer des soirées au stand-up parce que c'est vrai que c'est pas, si t'es pas connu, c'est pas le genre de truc que tu vas faire, que tu vas voir dans des festivals ou dans des, sauf si c'est un festival de l'humour, mais sinon en général du stand-up il y a pas beaucoup sur les prog et du coup c'est cool de consacrer des soirées à ça parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire et qui valent la peine d'être entendus. En tout cas.
Et justement, toi, t'es pas encore très connu. Comment on peut percer dans ce milieu? Ça va être comme ça, à force de plein de dates, plein partout, et puis tout d'un coup, on va te faire l'Olympia.
Après, être connu, je sais pas. Je pense que quand t'es connu, il y a une part de travail et tout, mais je pense que c'est beaucoup une question de chance aussi, de contact, de qui va venir voir ton spectacle, qui va en parler. En fait, c'est pour moi, c'est un peu du bouche à oreille. Ou alors c'est sur les réseaux sociaux parce que tu vas faire un buzz avec une vidéo. On l'a vu avec Inès Reg là récemment, qui faisait de l'humour depuis des années. Et puis finalement, elle fait une vidéo qui a fait le buzz. Et là, elle est au-devant de la scène, on la voit partout. Donc je pense que ouais, c'est vraiment une question de chance, mais de persévérance aussi, je pense. Ouais. Donc moi, j'ai pas l'objectif d'être connu, hein. Je me fais pas d'illusions non plus.
Bah, ne serait-ce que pour faire plus de dates.
Bah, pour faire plus de dates et puis juste pour en vivre. En fait, moi, j'ai pas envie de me faire plein de thunes sur ça. Moi, j'ai juste envie de pouvoir vivre tranquille en faisant que ça. Si mon métier, c'est de faire rire les gens, franchement, il y a pire comme métier, quoi. Et vivre de sa passion, je pense que c'est le principal, que tu sois connu ou pas. Enfin, si tu veux absolument être connu, je pense qu'il y a autre chose derrière. C'est pas seulement...
Oui, toi, t'abreuves pas les réseaux sociaux de vidéos, tu cherches pas à créer le buzz, quoi. Ça viendra si ça vient.
Je suis une quiche avec Facebook et tout, je comprends rien. C'est une pote qui m'a fait un cours la dernière fois. Quand elle m'expliquait un petit peu Instagram, j'ai commencé à paniquer. Enfin, je me suis dit, oh là là, mais c'est... Non, non, je suis pas du tout... Moi, j'aime bien, en plus, je vais dans les petits cafés assos où tu vas avoir 20 personnes devant toi... Après, j'aime bien les grosses dates aussi, tu vois, là, comme à la fête Erdiwa, où c'est dans le théâtre. Ça brasse du monde quand même, les fêtes Erdiwa, et du coup, je sais que... Et c'est agréable, mais c'est différent. C'est, pour moi, c'est deux scènes différentes. C'est pas la même énergie, c'est pas le même enjeu non plus, parce que finalement, dans un café asso, bon, tu te plantes, enfin, c'est pas grave. Au pire, tout le monde va pas le savoir. Mais sur des grosses dates, ouais. Ouais, il y a un peu plus de challenge et moi ça me stresse.
T'as l'impression d'être plus épié, enfin plus...
Ouais, et puis comme si je devais... il faut que je fasse mes preuves, quoi. C'est un peu... j'ai un peu cette pression-là où je me dis, putain, bon, s'il y a 150 personnes qui viennent voir mon spectacle, s'ils se font chier, c'est... Enfin, ça fait chier, tu vois, quand même. Enfin, si ça rit pas... Et puis, être devant un public de 150 personnes, même s'il y en a, il va y en avoir que la moitié qui rigole, t'as l'impression que tout le monde rigole. Donc ça, ça va, le truc, il est pas, la pression, elle est pas la même. Alors quand t'es devant 20 personnes, si t'en as que deux qui rigolent, bon bah ça se voit. Et puis tu passes un grand moment de solitude, hein, ça m'est déjà arrivé sur une date. C'est arrivé qu'une fois quand même, donc ça me rassure. Mais c'est déjà arrivé, ouais.
Sur le premier spectacle, et pourtant il est rigolo spectacle. De bout en bout.
Ouais. Ouais, mais je pense que c'était... Je pense qu'il y en avait qui étaient de la manif pour tous. je pense, il y en a, ils n'ont pas kiffé parce qu'ils n'étaient pas. Parce qu'ils étaient un petit peu homophobes, je pense. Et du coup, ça ne les fait pas rire, en fait. Et voir quelqu'un qui se fout de leur gueule ouvertement face à eux, bon, ça le fait moyen, en effet. Mais.
Donc, avis à tous les ports du Diwa, hein, si, venez voir si vous rigolez ou pas devant ce spectacle.
Ouais, voilà, avis à tous les ports. Qu'ils le savent, aux autres qui ne le savent pas, et puis même à ceux qui ne sont pas des porcs, venez profiter de la soirée parce que ça va être super. Et puis, vous pourriez apprendre des trucs et il y a même moyen de rigoler, en fait. C'est... Ouais, venez rigoler, quoi. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je suis assez bon public en général, du coup, si ça me fait rire, en principe, ça fait rire un peu la majorité, on va dire.
Bon, Amé a bien ri au spectacle de Amé. Donc rendez-vous le 30 novembre hein, pour
ouais,
tester ça.
Ça marche.
Merci d'être venu.
Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli.
Et après tu vas où donc après le 30 novembre par exemple? Donc il y avait Bruxelles.
Alors il y aura une autre date à Die, sûrement à La Forge.
Ok.
Et là on est en train de prévoir des dates à Grenoble, Lyon et même Paris. Là on a eu des réponses pour Paris, du coup ça.
C'est parti.
C'est parti, ouais. Quand tu commences par Paris, c'est que c'est un peu parti, ouais. Enfin, on verra. On verra en tout cas.
C'est où à Paris?
J'ai pas encore fixé de date. Il y a la marbrerie à Montreuil, en tout cas, qu'on a contacté et qui serait pourquoi pas motivée. Et d'autres lieux, d'autres petits cafés stand-up aussi, surtout des boui-boui, parce qu'il y en a un peu partout en France, là, des boui-boui et puis des caves, en fait, des caves parisiennes où t'as toute la crème du stand-up qui y va et qui s'éclate juste. Voilà, j'aimerais bien faire partie de ce milieu à un moment donné. Ouais.
Merci Amé.
Merci à toi.
Interview.
Ok, the bird.
Interview du jour.
L'interview du jour.